she lives in her own country. They came and invade her home, and they also they broke the door. She hasn't got a place to sleep. She hasn't got a lot to eat. Corruption, the center of all reaction, and the arms that's supposed to protect her. And I ask myself, what is going on in here? And I ask myself.
Alors, en ce dernier jour du Tempo Latino édition 2023, Alternante part à la rencontre des bénévoles et des membres de l'organisation du festival. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Jean-François, qui va pouvoir un petit peu nous parler de son parcours et de la mission qu'il exerce au sein du Tempo Latino. Alors déjà, première question, Jean-François, comment te sens-tu en ce quatrième et dernier jour de festival ?
Bien, après c'est le dernier jour, c'est la dernière ligne droite. Et on souhaite clôturer avec une très belle soirée aux arènes. Clôture de la meilleure des façons, donc on s'attache à ce que tout se passe bien pour cette dernière soirée.
Voilà, c'est ça, on rappelle que tu es donc président de l'association.
Oui.
Voilà, depuis combien d'années maintenant ?
Depuis 2019.
Depuis 2019, alors on reviendra un peu sur ton parcours. Avant de venir sur ton parcours, quel bilan toi tu tires de cette 28e édition qui est sur le point de se terminer ?
Le premier bilan qu'on peut tirer, c'est le bilan artistique, et on est très content. On a une première soirée vendredi soir aux arènes, avec Orchestra Baobab et Grupo Compay Segundo, avec toute une histoire de la salsa cubaine, puisque Orchestra Baobab, ce sont des Sénégalais qui se sont réappropriés la musique cubaine, et Grupo Compay Segundo, donc le fils de Compay, qui reprend le flambeau de son père. Hier soir, une soirée de très grande classe. On avait la chance de recevoir Ila Dante, une très grande artiste mexicaine, grande personnalité et un charisme, une voix magnifique. Elle était suivie par une autre personne qui a un grand charisme, c'est Sima Funk, pour une fin de soirée, on va dire, explosive. Voilà, ce soir, on va clôturer le festival avec Bernard Lavilliers, qui fait la chance d'être là et de nous faire son album au Gringo, avec le morceau La Salsa dedans ou Quiero la Gama. Et la soirée continuera avec, on va dire, c'est une soirée des quartiers, parce que ça terminera avec La Excelencia, Salsa Dura, des quartiers de New York. Et c'est un peu. Les quartiers de New York dans les années 70, c'est ça qui a inspiré ce festival, avec des groupes comme La Fania, pas mal qui sont venus ici et qu'on voit derrière moi là. Et donc voilà, on clôturera ce festival avec ce merveilleux groupe qu'est La Excelencia.
Alors cette année, le parrain, c'était DJ Guts. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette connexion, comment elle s'est faite pour que Guts puisse devenir le parrain de cette 28e édition ?
Alors, comme toujours, c'est l'histoire d'une rencontre. Et c'est la rencontre du directeur artistique, Eric Dufault, que tu as rencontré tout à l'heure. C'est le président fondateur que j'ai remplacé en 2019, qui est devenu directeur artistique. Et donc, il a rencontré Guts cet hiver. Il n'a pas arrêté de nous dire que c'était une chouette personne, et puis voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Et Guts a été parrain de ce festival. Alors, c'est pas un bavard, c'est pas quelqu'un qui aime bien parler. D'habitude, le parrain présente les groupes, là, c'est pas le cas, c'est pas quelqu'un qui aime se mettre en avant, c'est quelqu'un qui préfère se mettre aux manettes et faire découvrir de la musique. Mais c'est une chouette rencontre qui a été faite au festival.
Ouais, surtout qu'il a traversé le monde, hein. Il a des sources d'influence et des sources d'inspiration multiples, et c'est ce qui caractérise complètement le festival Tempo Latino. Il ne parle pas beaucoup, mais on a eu la chance de l'avoir au discours d'ouverture quand même pendant quelques minutes. Et il clôturera ce soir un discours plutôt artistique sur la scène, il me semble, de la Conga, pour terminer, DJing.
Sur la scène de la Conga, donc après le concert de La Excelencia, on repasse sur la scène de la Conga avec Total Hip Replacement et notre ami Guts.
C'est ça, Total Hip Replacement, qu'on aura l'occasion d'interviewer dans la soirée. Et on remercie d'ailleurs le Festival Tempo Latino de nous recevoir Alternante et de nous permettre depuis 2 ans de faire de belles interviews. Plus globalement, maintenant, on fête les 30 ans de l'association. Tempo Latino. Quel bilan tu en tires, Jean-François, aujourd'hui, 30 ans après sa création?
Alors oui, effectivement, c'est les 30 ans de l'association, parce qu'elle a été créée, on va dire, statutairement.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est administrativement, ouais. En septembre 1993. La première édition est en 94. Et on va fêter cette année la 28e édition, parce qu'il n'y a pas eu, pendant deux ans, il n'y a pas eu d'édition de Tempo. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait quelque chose pour les 30 ans de l'association? Moi, il nous est apparu quand même que cet acte administratif, c'est quelque chose qu'on va partager avec les bénévoles, surtout avec ceux qui sont là depuis la première heure. Et on partagera avec les festivaliers la 30e édition.
C'est bien vu. Est-ce qu'il y a déjà des petites choses qui se dégagent pour cette 30e édition, des idées artistiques?
Non, pas encore. Pas encore, c'est un peu trop tôt, on est à deux ans. Il y a des idées, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler.
Il y a quand même des petites idées, c'est-à-dire que parfois, quand tu te couches, peut-être qu'il y a des choses qui émergent, des étoiles dans les yeux.
Oui, de toute façon, souvent, les groupes qui passent, c'est les envies débutent 10-15 ans en arrière, et puis bon, mais il faut choisir le bon moment et le bon endroit, ça Tempo.
Alors justement, c'est quoi le secret d'une pérennité comme Tempo Latino et de cette qualité artistique qui permet de survivre? Parce qu'on sait que c'est pas facile pour les assos. Comment on fait justement? Quelles sont les qualités requises pour pouvoir être durable?
Alors c'est toujours dur de se chercher des qualités. Moi j'ai tendance à dire ben, comment on fait, et puis est-ce que c'est des qualités, des défauts, j'en sais rien. Mais enfin, nous on fait comme ça. L'exigence musicale, c'est au-delà de la musique, je vous le disais tout à l'heure, hein, la musique puertoricaine des années 70 dans les quartiers de New York, c'était une musique qui disait quelque chose, qui à une époque où ça n'allait pas très bien, et c'était une musique de revendication, quoi, en fait. Et donc moi j'aime bien dire que ici les artistes ont, de par leur histoire, de par de là où ils viennent, de par ce qu'ils défendent, ont quelque chose à raconter qui mérite d'être entendu. Et la deuxième chose, c'est, on parlait d'exigence sur la programmation, Eric Dufaux, le directeur artistique actuel, qui, je le rappelle, est président fondateur de cette association, il a carte blanche. En fait, on fait pas une programmation de compromis. Moi, j'aime bien que ce soit sa ligne éditoriale, il propose, et après le reste des bénévoles se met en branle pour autour du plateau faire au mieux.
Alors justement, est-ce qu'il y a des perspectives? On va essayer de voir un petit peu sur l'avenir, sur l'année 2024. Est-ce qu'on a une petite idée de ce qui pourrait déjà se préciser? Est-ce qu'il y a des contacts avec des artistes déjà?
Non, il y a juste des envies jusqu'à maintenant, mais tant que c'est au stade d'envie, ça reste off, on va dire.
Ça reste off. Donc là, tu disais que c'était plutôt c'est plutôt Eric qui chapeaute un peu cette programmation. Est-ce qu'il la chapeaute aussi pour les scènes Conga et Cap Tempo? Parce qu'on rappelle qu'il y a les arènes pour nos auditrices et nos auditeurs, et il y a deux entre guillemets plus petites scènes, non moins de grande qualité, Cap Tempo et Conga. Est-ce que là, il y a une marge de manœuvre? C'est plutôt collégial dans les décisions?
Les décisions, elles sont collégiales de toute façon, parce que Eric nous propose, nous dit, qu'il nous demande notre avis à chaque fois. Mais globalement, la programmation entière du festival est l'œuvre du directeur artistique. Ouais. Okay.
Donc pour l'année prochaine, affaire à suivre.
Ouais, affaire à suivre. Déjà, on va voir, il y a des trophées qui seront remis ce soir. Peut-être en général, ceux qui ont un trophée sont... Ouais. Le remettre sur la table l'année d'après.
On pense à Joao Selva notamment, qui est revenu cette année.
Exactement, il avait le trophée l'année dernière.
Exactement, et d'ailleurs on sera content de l'interviewer d'ici une petite demi-heure. En tant que président, est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement en quoi consiste ta mission, on va dire, avant, pendant et après?
C'est une association, donc pas de rôle bien défini. On est un bureau et un conseil d'administration avec plusieurs bénévoles. Monter le festival, c'est effectivement une programmation artistique, mais c'est après s'occuper de la sécurité du festival, s'occuper de la logistique du festival. Et c'est tout ça qui se monte de fil en aiguille tout au long de l'année, parce que c'est un travail qui commence le lendemain
de la fin du
festival.
Ouais, c'est ça. Et pendant, tu arrives à profiter un petit peu, tu arrives quand même à aller voir un peu les spectacles?
On arrive toujours à trouver au moins un petit moment pour aller voir une balance et s'offrir quand même le plaisir de voir un concert.
Alors, quelles sont les compétences pour un président? Globalement, enfin, quand je parle de compétences, c'est, disons, quelles sont peut-être, je dirais peut-être les capacités qu'il faut avoir quand même pour pouvoir gérer un petit peu comme ça l'organisation d'un festival. Alors, on va peut-être éviter le mot qualité, comme on disait tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des choses dans le vivre ensemble qui sont assez importantes? Tu vois ce que je veux dire?
Il faut avoir des qualités humaines. Ouais. Faut aimer rencontrer les gens. Aimer. Pour notre festival, il faut absolument aimer la diversité culturelle. Ouais. Faut aimer le vivre ensemble. Faut être à l'écoute. C'est pas toujours facile. Hein. Ouais, moi, le premier, il y a une demi-heure de ça, j'ai pas été à l'écoute de quelqu'un. Je suis allé m'excuser après. Ouais. Voilà, ça fait partie du truc. On est un peu dans le jus et on oublie les bases. Ouais. Mais je pense qu'il faut être curieux et aimer aller vers les gens.
Qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers cette culture afro-cubaine? Est-ce que dans ton parcours personnel, quand tu étais petit, des sonorités, c'est comment?
C'est vraiment ce festival, moi, qui m'a fait découvrir cette musique. J'avais 18 ans au premier festival, j'étais déjà bénévole. J'étais plutôt sur les musiques pop-rock des années 70. Ouais, ouais. Et ce festival m'a fait découvrir des gammes, des instruments, des façons d'arranger les morceaux que je ne connaissais pas. Et ça m'a grandi musicalement. Et maintenant, ça a élargi mon champ lexical musical, on va dire.
Ouais, complètement, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, tu aurais un artiste peut-être à nous conseiller, un conseil d'écoute, quelqu'un que tu écoutes en ce moment, quelqu'un qui est dans la programmation actuelle ou pas forcément, mais est-ce que tu as une référence à nous donner?
Une référence, alors ce que j'écoute actuellement, c'est un groupe qui était venu l'année dernière, c'était Gondon Afrobeat Orchestra, c'est de l'afrobeat. C'est un peu ma passion, voilà. Et donc c'est ce que j'écoute en ce moment. Certainement je passerai à d'autres morceaux d'ici une semaine, je pense.
Ouais, ouais, ok. Merci beaucoup Jean-François pour cette belle interview. Très bonne continuation sur cette soirée. Et puis on espère se retrouver pour cette édition 2024 et donc pour la 29e édition du Festival Tempo Latino. Merci Jean-François.
Merci à vous.
À bientôt.
Très bonne fin de festival. Au revoir.
Merci, au revoir. What is going on in here?